Au moins 5 morts dans un séisme de magnitude 6,1 dans le sud de l'Iran. Un méga navire explose à Dubaï, Mali, Guinée, Burkina. Les sanctions au menu du sommet de la CEDEAO. C'était les principaux titres. En voici le journal. Au moins 5 personnes ont été tuées et 44 autres blessées dans un séisme de magnitude 6,1 survenu samedi matin 2 juillet dans la province iranienne de Hormozgan, dans le sud de l'Iran. L'épicentre du séisme a été localisé près de la ville portuaire de Bandar Khamir, près du golfe Persique. Des maisons ont été détruites ou endommagées dans les villages affectés. L'ambassade de Russie à Vienne a annoncé vendredi soir, 1er juillet, la visite du négociateur en chef nucléaire de l'Iran à Moscou et sa rencontre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Dans un message publié sur sa page Twitter, l'ambassade de Russie à Vienne a annoncé la rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Bareilly Kani, négociateur en chef de la République islamique d'Iran dans les pourparlers nucléaires. Mikhail Ulyanov, le représentant de la Russie auprès des organisations internationales basées à Vienne, était également présent à cette réunion selon le message. Mikhail Ulyanov a écrit « C'était une discussion très professionnelle sur l'état actuel du plan global d'action conjoint. Mon évaluation est qu'en dépit de tous les problèmes, l'accord nucléaire peut encore être relancé. Pour ce faire, les États-Unis doivent faire preuve de plus de flexibilité. » Des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis ont eu lieu cette semaine à Doha, au Qatar, avec la participation du principal négociateur iranien Ali Bareilly Kani, le secrétaire général adjoint du service d'action étrangère de l'Union européenne, Eric Mora, et le représentant spécial américain, Robert Malley. À l'issue des discussions, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a noté que le principal négociateur iranien poursuivait sérieusement ses négociations logiques, raisonnables et dynamiques et en parfaite coordination avec lui en vue de la levée des sanctions anti-iraniennes. Les médias yéménites ont rapporté vendredi 1er juillet un incendie sur un navire transportant des voitures dans le port de Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est comme en janvier dernier, lorsqu'un Sarala avait ciblé le port émirati avec ses combinaisons missiles-drones. Le directeur du port de Nishtun au Yémen, Saïd Kris, a déclaré au site Al-Mastar Online qu'un navire transportant des voitures nommé Moyeddin, appartenant à un homme d'affaires indien, a pris feu dans le port de Dubaï. Selon le rapport, les voitures du navire appartenaient à Saas Awad al-Jadai, un homme d'affaires de la province yéménite de Maha. Selon le responsable du port de Nishtun, le navire était en route vers ce port de l'est du Yémen lorsqu'il a pris feu. Concernant la cause de cet incident, certaines sources disent que le navire avait pris feu mercredi en raison de la dégradation des connexions électriques. En Irak, après le Schlumberger, c'est au tour d'autres compagnies pétrolières sionistes de fuir. Les médias irakiens ont rapporté que suite à l'ordre du ministère irakien du pétrole, 3 grandes compagnies pétrolières américaines avaient quitté la région du Kurdistan irakien et que cette mesure avait mis les relations entre Bagdad et Erbil en veilleuse. Le ministère irakien du pétrole a récemment fixé un délai de 3 mois dans un message adressé à la compagnie pétrolière nationale du pays et a averti tous les entrepreneurs opérant en Irak de conclure leur contrat avec le Kurdistan irakien avant la fin de la période annoncée. Selon les médias irakiens, le ministère du pétrole a prévenu qu'il mettrait sur liste noire les entreprises coupables qui n'obéiraient pas à cet ordre. Des sources irakiennes ont récemment rapporté qu'à la suite de la publication de cet ordre ministériel, les 3 principales compagnies pétrolières américaines, Baker Hughes, Schlumberger et Halliburton ont cessé leurs activités dans la région du Kurdistan irakien qu'ils ont quitté aussitôt. Le mouvement de la résistance islamique Hamas a salué vendredi un rapport de l'ONU appelant à la cessation immédiate du blocus imposé par Israël autour de la bande de Gaza depuis 2007. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a en effet indiqué jeudi 30 juin que la situation dans la bande de Gaza est catastrophique en raison du siège imposé à l'enclave côtière depuis 15 ans. Le siège israélien a rendu les taux de pauvreté et de chômage les plus élevés du monde, détruit l'économie, écrasé une grande partie des Palestiniens et les a rendus dépendants de l'aide internationale à plus de 50%, selon le rapport. il devrait être complètement levé, conformément à la résolution 1860 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a demandé l'OCHA. Le rapport appelle à la levée immédiate du siège israélien, en levant toutes les restrictions compromettant l'économie palestinienne et en rouvrant et construisant les usines détruites au cours des conflits. Le taux d'inflation dans la zone euro a fait un bond et atteint un nouveau record en juin, les prix à la consommation au cours de ce mois s'élevant à 8,6% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres publiés vendredi par Eurostat, l'Office de statistique de l'Union européenne. Eurostat a rapporté que l'augmentation des prix à la consommation dans les 19 pays utilisant l'euro comme devise avait encore augmenté depuis le précédent record de 8,1%. Enregistré en mai. L'inflation de l'euro est à son plus haut niveau depuis la création de cette statistique en 1997. Ce bond a été entraîné principalement par l'envolée des prix de l'alimentation et de l'énergie en conséquence du conflit russo-ukrainien et des menaces sur l'approvisionnement en gaz qui continuent de faire grimper les factures. Près de la moitié des 19 pays de la zone euro ont enregistré une inflation à deux chiffres, selon ces statistiques. Les dirigeants de la CEDEAO vont se réunir lors d'un sommet très attendu, dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, trois pays théâtres de coups d'État. Les leaders ouest-africains vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes imposées au Burkina Faso et à la Guinée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend peser pour un retour rapide des civils au pouvoir. Le Mali, exsangu d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières, hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Le Burkina Faso, autre pays sahélien pris dans la tourmente extrémiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les juntes en place entendent y rester 3 ans et exposent leur pays à un durcissement des sanctions. D'âpres négociations sont en cours depuis des mois entre la junte militaire au Mali et la CEDEAO. Elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes. La CEDEAO s'est donné un mois de plus pour négocier et s'entendre sur une levée ou un maintien des sanctions. 10 migrants clandestins ont été retrouvés morts cette semaine en plein désert nigérien, à proximité de Dirkou, dans la région d'Agadez, nord du Niger, proche de la Libye, par une patrouille militaire, a déclaré l'armée nigérienne dans son bulletin hebdomadaire d'information paru jeudi à Niamey. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les bio-armes d'Israël au Maroc. Après avoir installé une base militaire, une usine de drones et une plateforme pétrolière au Sahara, et des sites à Dakhla, et tout cela en avalant les renseignements marocains et en les transformant en filiales du Mossad, l'entité sioniste serait-elle sur le point d'installer des laboratoires biologiques au Maroc? Notons qu'une telle perspective s'inscrit parfaitement dans les plans US-Israël pour le Maghreb. Le ministère marocain de la Santé a signé jeudi 30 juin un protocole d'accord avec le groupe israélien IMS pour la construction de plusieurs hôpitaux. L'entité sioniste va construire des hôpitaux au Maroc. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a présidé ce jeudi matin à Rabat la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre son département et le groupe sioniste IMS pour la construction d'hôpitaux au Maroc. les médias marocains précisent. Cet accord s'inscrit également dans le cadre du renseignement de la coopération bilatérale entre le Royaume et l'entité sioniste concernant la promotion de l'investissement et de l'innovation dans de nombreux domaines, dont le secteur de la santé au Maroc. Et ces médias d'ajouter. L'accord s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs publics et privés et vise également à mettre en œuvre un programme d'investissement qui concerne la conception, la construction et l'équipement de certains hôpitaux, avec une contribution financière du groupe IMS estimée à 5 milliards de dirhams. La première phase de ce programme d'investissement prévoit la construction de 5 hôpitaux d'une capacité d'environ 1000 lits dans les régions de Dakhla, Oued et Darab, Fès Meknès, Dra Tafil Alet et Marrakech Safi. Mais Israël, qui est à la tête d'un vaste réseau de trafic d'organes, dont le point de départ se trouve à l'intérieur des prisons sionistes, où les prisonniers palestiniens sont victimes des pires tortures, dont le prélèvement d'organes, va-t-il se préoccuper des patients marocains? Alors, cet énorme investissement n'est-il pas un peu curieux alors que l'Occident patauge contre le Covid et que l'actualité est pleine d'images d'Azovstal de Mariupol en Ukraine avec ses laboratoires de la mort? Dans les années 90, la presse britannique avait déjà levé un coin du voile sur les laboratoires d'armes biologiques ethniques des sionistes. Le Sunday Times de cette époque écrivait: Israël travaille sur une arme bactériologique ethnique contenant des micro-organismes génétiquement modifiés qui affecteraient les Arabes, mais pas les Juifs. Les chercheurs israéliens ont essayé d'isoler les gènes distinctifs portés par les Arabes afin de développer un virus, une bactérie qui ciblerait spécifiquement cette population, écrit le journal, citant des sources militaires israéliennes et des services de renseignement occidentaux. Ce programme est basé à l'Institut Nis-Ziona, un centre de recherche top secret sur les armes bactériologiques situé au sud de Tel Aviv, estime le journal. La recherche est compliquée par le fait que Juifs et Arabes ont la même origine sémitique. Mais selon un scientifique israélien anonyme cité par le Sunday Times, les responsables du programme ont néanmoins réussi à identifier une caractéristique particulière dans le patrimoine génétique de certaines communautés arabes, les Irakiens en particulier. La maladie pourrait être transmise par voie aérienne ou par voie de contact, précise le Sunday Times. Depuis les années 90, les sionistes ont manifestement progressé et nous craignons qu'ils aient identifié les gènes nord-africains. Après tout, le scénario de la guerre anti-Maghreb via un conflit au Sahara n'a pas fonctionné. Les sionistes pourraient donc être tentés par la bioguerre.